L'argenté, 100 ans d'histoire à Bayonne, tel est le thème de la conférence que nous vous proposons de suivre. Conférence présentée par Dominique Iribarin, professeur d'histoire à la retraite et ancien directeur de l'établissement. Dans cette première partie, nous entendrons l'histoire de l'école L'Argenté, de ses origines jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Nous écoutons Dominique Iribarin.
Parler de L'Argenté, c'est d'abord essayer de combler un vide. Le vide dans l'historiographie de la ville, tout simplement. L'Argenté a été ignoré des historiens locaux. On a beaucoup de conférences, de publications concernant le lycée, concernant Saint-Bernard, concernant Villapia. L'Argenté est passé à la trappe. Pourquoi ce silence étrange? Alors, en réfléchissant, il y a peut-être un élément d'explication. C'était un établissement de filles et pour un public très trié sur le volet. Alors, ce désintérêt des historiens pour l'établissement de filles, on va essayer de le combler. Cet établissement ouvre ses portes pour sa première rentrée scolaire le 12 octobre 1920 pour 80 élèves. Donc, c'est confidentiel, c'est vraiment limité, et cet établissement va jouer cette discrétion pendant très longtemps. On va se poser quelques questions dans cette conférence. D'abord, comment cet établissement a-t-il été créé? Par qui? Et nous verrons que c'est très particulier. Tout à l'heure, M. Hugal a parlé du Pays Basque. Ce n'est pas du tout le Pays Basque qui est à l'honneur ce soir, ce sont les Landes. C'est d'abord un établissement qui nous arrive par le biais d'une communauté, qui nous arrive des Landes. Et on va essayer de voir par quel hasard historique ces sœurs ont pu arriver sur l'Argenté. Leur projet d'éducation chrétien, pour un public fille très protégé, bien sûr, a été mis en péril ou mis en interrogation avec toute l'évolution de la société entre 1920 et 2020. Les événements historiques ont provoqué un certain nombre d'interactions entre le projet initial et la réalité qui va finalement émerger pour faire de l'Argenté un établissement qui aujourd'hui est reconnu, M. Hugal l'a dit, est bien implanté dans la ville et compte 1500 élèves, de 80 à 1500 élèves, il y a donc eu des événements importants permettant cette progression. Nous allons nous interroger aussi sur la durée de siècles écoulés, sur le projet initial. Comment ce projet initial porté par une communauté de religieuses ursulines est-il aujourd'hui porté? Avec quel support, quels moyens et quelles évolutions? Donc nous verrons aussi quelques personnes marquantes qui ont vraiment imprégné de leur empreinte, de leur personnalité, les établissements de l'Argenté. Je reconnais des anciennes élèves ici. Je suis sûr que dès qu'on évoque le nom de telle ou telle sœur, c'est une foule de souvenirs qui arrivent. Donc peut-être plus que dans des établissements publics où les rotations administratives étaient plus rapides, ici, nous avons une personnalisation qui va être extrêmement forte, que nous allons essayer d'évoquer. Alors, nous allons commencer par un premier point. Quelles sont les racines? Les racines de l'Argenté, c'est une congrégation religieuse qui s'appelle la Compagnie de Sainte-Ursule, qui est créée au XVIe siècle, très précisément en 1535, par une femme qui s'appelle Angèle Mérici. Et en Italie, cette fondation se fait dans la ville de Brescia, qui est au nord de l'Italie. Donc tout cela est fort loin de nous, et 1535 est fort loin, bien entendu, de 2020. Donc comment les choses se sont-elles organisées pour que nous arrivions à une communauté ursuline à l'Argenté? Les ursulines, au départ, forment un groupe de femmes chargées de la prise en charge des jeunes filles, mais pas sous l'angle de l'enseignement, c'est plutôt sous l'angle de l'éducation chrétienne. Au départ, il ne s'agit absolument pas d'une congrégation à caractère enseignant. Qu'est-ce qui va infléchir la destinée de cette congrégation religieuse? C'est la réforme protestante qui ébranle la chrétienté. L'Église catholique réagit avec un mouvement important qui est le mouvement de la contre-réforme. Le but de cette contre-réforme, c'est de rétablir le magistère de Rome, la parole, disons, bien entendue de l'Église catholique, bien entendu, c'est-à-dire expurgée de toutes les hérésies que le protestantisme avait pu amener. Pour cela, tous les moyens sont bons. Alors, le Concile de Trente, entre 1545 et 1563, va travailler sur la doctrine, les points à renforcer, l'éducation des prêtres en particulier. On va initier aussi un mouvement important, un mouvement artistique, qui est l'art baroque, qui va montrer la puissance et la force de l'Église pour contrer les protestants. Et surtout, très vite, on se dit, il faut reconquérir les esprits et par le moyen de l'éducation. L'Église catholique masculine, je vais insister sur ce masculin et ce féminin qui sont perpétuellement en concurrence ou en complémentarité. L'Église catholique, par l'intermédiaire d'un archevêque de Milan, qui s'appelle Saint-Charles Borromée, instrumentalise les compagnies comme les compagnies des Ursulines, va cloîtrer ces sœurs-là, va leur imposer des règles et va les installer dans une mission bien précise qui est l'enseignement pour les jeunes filles. Donc les Ursulines deviennent un instrument au service de la contre-réforme catholique. Elles arrivent en France par le sud-est, par Avignon, et elles s'introduisent progressivement. Et d'ailleurs, il faut le savoir, sur Bayonne, dès 1621, une communauté ursuline s'installe dans la ville. Cette communauté ursuline, qui est installée du côté de Saint-Esprit, il y a un nom de rue qui rappelle leur présence, ces ursulines disparaissent complètement à la Révolution française, et ce n'est donc pas du tout cette branche toulousaine qui est à l'origine de l'argenté. Donc, après la Révolution française, on ne parle plus d'ursuline à Bayonne. Donc, terminé, pas du tout de là que vient l'argenté. L'argenté va arriver à se créer à partir d'une communauté. Cette communauté, elle arrivera de Bordeaux. En 1606, le cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, accueille les Ursulines, leur donne une règle et les utilise pour cette mission d'éducation. Et c'est à partir de cet archevêque de Bordeaux qu'une communauté qui est dirigée par une femme qui s'appelle Françoise de Cazère, une noble bordelaise, que l'archevêque va mandater, arrive à Saint-Sever, dans les Landes, avec 6 religieuses, pour fonder une communauté et fonder surtout une école. Cette fondation a un but précis, il faut limiter l'influence protestante qui rayonne depuis Orthès. Orthès et Pau, donc il fallait à tout prix faire en quelque sorte un cordon sanitaire pour éviter la diffusion du protestantisme. Donc les religieuses vont prospérer sur Saint-Sever, elles arrivent à rayonner, leur établissement est prospère quand arrive la Révolution française. La Révolution française disperse les sœurs, récupèrent le bâtiment, qui existe toujours d'ailleurs, le tribunal de Saint-Sever l'occupe actuellement, c'est un très beau d'ailleurs monument, pour ceux qui connaissent Saint-Sever, et ces sœurs, on peut penser que comme la communauté de Bayonne, elles ont disparu. Eh bien, pas du tout, c'est là un des miracles de cette communauté, c'est que tout simplement, 6 religieuses refusent de disparaître, restent dans la campagne, continuent à garder les enfants, les éduquer, et progressivement se reconstitue. D'abord sur R, sur l'Adour, mais la ville de Saint-Sever, qui avait gardé un excellent souvenir de leur qualité d'éducatrice, les fait revenir en 1804, après le concordat napoléonien, et donc elles reprennent leur activité dans un autre local, et ce local va devenir un monastère prospère, important, qui va déployer son activité jusqu'en 1904. Reconnaissons tout de même qu'en 1904, à Saint-Sever, un petit problème de recrutement se pose pour une raison simple. Le chemin de fer qui s'est installé dans tout le sud-ouest a délaissé Saint-Sever. Saint-Sever n'est plus dans un axe de circulation important. Bien, malheureusement, les sœurs peinent un peu à garder le contact avec un effectif important. 1904, que se passe-t-il ? Bien, il se passe tout simplement que la République laïque affronte de façon assez brutale les congrégations enseignantes qui sont accusées de miner la notion même de république. La Troisième République n'y va pas par quatre chemins, elle dissout purement et simplement les congrégations enseignantes. On peut dire quand même qu'une petite communauté du fond de la campagne landaise est emportée par un maelstrom qui touche plutôt les grosses congrégations, type jésuites, la Salie ou autres, qui sont des grosses congrégations urbaines. La ville de Saint-Sever va tenter par tous les moyens de les faire rester. La scène du départ et de la fermeture du couvent de Saint-Sever est importante à connaître parce que toute la ville est là, toute la population est là, on encadre les sœurs, on essaie d'empêcher la gendarmerie de les expulser, mais peine perdue, les sœurs sont exilées. Une question se pose pour elles. Doivent-elles purement et simplement dissoudre la communauté ou peuvent-elles encore espérer survivre? Comme à peu près toutes les congrégations enseignantes, elles vont se réfugier dans les pays frontaliers les plus proches. Alors il n'y a pas qu'elles qui feront ce choix, les frères des écoles chrétiennes, les jésuites, tout le monde va passer la frontière pour aller en Espagne s'installer. Et les Ursulines de Saint-Sever choisissent tout simplement de s'installer à Sarraus. Et en s'installant à Sarraus, dans cette villa que vous voyez là, qui est une grosse maison qui est en verticale, il y a peu d'espace autour, elles vont reconstituer leur école et les familles landaises vont suivre. Les familles landaises envoient, vive le chemin de fer cette fois-ci, envoient leurs enfants à Saint-Sever. C'était de l'internat, les voyages n'étaient pas si fréquents que ça, mais cette fidélité est quand même assez remarquable. Elles sont appuyées par l'évêque de Vitoria, la population de Sarraus les accueille assez chaleureusement, et elles vont aussi ouvrir des classes pour les élèves espagnols. D'ailleurs, on a quelques témoignages d'élèves de très grosses familles nobles qui viennent là, qui sont conscients de la qualité d'éducation qui est prodiguée aux enfants, et donc elles font leur trou, entre guillemets, sauf que elles n'ont pas d'argent. Ces sœurs vivent difficilement, elles ne vivent que des revenus de l'internat, des dons des familles, et finalement c'est une communauté qui est toujours, toujours limite en termes matériels. Donc elles sont dans la précarité constante, dans l'inquiétude de savoir ce qui se passe, mais elles sont animées d'une foi qui a transparé dans les écrits, qui est assez remarquable. Pour elles, il n'y a pas de souci, on n'est pas dans la désolation, mais on est dans le travail, dans la pédagogie, on continue à faire de l'éducation pour les élèves espagnols et françaises. Elles ne savent pas trop jusqu'à quand ça va durer, et personne ne le sait à ce moment-là. L'événement historique qui vient faire bouger les lignes, c'est la guerre de 14-18. La guerre de 14-18 va unir les Français dans la boue des tranchées, et vous vous rappelez peut-être du slogan « les curés, sac au dos », et vous vous rappelez aussi qu'il y a une espèce de lutte qui sera le plus patriote que l'autre, et quel sera le sang versé le plus pur pour le service de la patrie. Cette unanimité patriotique qui sort de la guerre, ce qu'on va appeler l'union sacrée, va atténuer les attaques contre les congrégations, et après la guerre, ces congrégations qui ont mérité une reconnaissance de la nation, puisque les religieux viendront se battre sur le terrain, reviendront en France pour combattre aux côtés des troupes de la République. Donc, on accepte leur retour, mais on va dire une chose qui est quand même à savoir, on l'accepte, on le tolère, mais la loi ne le mentionne pas. La loi ne marque pas, n'accorde pas le retour des congrégations religieuses. Donc ce retour est un retour un petit peu sur la pointe des pieds. On a bien compris que les radicaux socialistes qui ont imposé la loi sur les congrégations et la séparation des églises et de l'État en 1905 sont toujours au pouvoir et sont prêts à repartir au combat contre éventuellement des prétentions catholiques trop marquées. Donc la question du retour pour la communauté se pose sans que on sache très bien ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que le retour à Bayonne va être un petit peu compliqué Le retour en France va être un petit peu compliqué pour les sœurs. Pardon, je me suis trompé. Oui, c'est ça. La communauté, pendant toute la guerre, pardon, toute la période 1904-1920, va garder des contacts très étroits avec les religieux, les évêques, le légat du pape vient les voir. Donc, tout le monde est à leur petit soin, à leur chevet. Et surtout, il y a une visite qui, pour elles, va être extrêmement importante. C'est la visite de leur ancien aumônier de Saint-Sever. Alors, cet ancien aumônier, pour Bayonne, il a un rôle considérable dans la vie religieuse. Il s'agit de Monseigneur Gieur, qui est évêque de 1906 à 1934. Et cet évêque, c'est pas n'importe qui. C'est un évêque qui, dès 1906, affronte de manière très brutale la République et va avoir une politique extrêmement démonstrative pour affirmer la puissance du catholicisme, en particulier du catholicisme local, face à la République. Et donc la rivalité entre les deux va marquer Monseigneur Gieur de façon très précise comme étant un évêque de combat, un évêque de décision et un évêque qui veut donner une visibilité au catholicisme. Pour vous donner deux exemples architecturaux qui montrent que ce n'est pas un vain mot, c'est Monseigneur Gieur qui fait construire le grand séminaire, actuellement repris par l'université. Quand vous voyez les bâtiments, vous voyez que ce n'est pas une petite chose. Et il fait construire aussi, pour ceux qui le connaissent, le petit séminaire du Staritz qui domine la vallée de la Nive et dont l'intérêt architectural est manifeste, vu la visibilité qu'il impose à tous. C'est vraiment le triomphe du catholicisme qui est affirmé dans les bâtiments. Voilà. Mais dans son idée, les sœurs de Saint-Sever doivent repartir à Saint-Sever. Et Monseigneur Gieur a tout fait pour que les sœurs retournent à Saint-Sever. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? D'abord, comme leur bâtiment a été mis en vente, les bâtiments ont été spoliés, on met en vente. Je vous signale qu'il a fallu 3 enchères qui successivement ont baissé parce que personne n'ose racheter ce bâtiment. Finalement, le bâtiment est racheté par un prête-nom et la somme est complétée par Monseigneur Gieur. Donc on fait tout pour qu'elles reviennent dans leur couvent d'origine. Mais, il y a 2 mais. Le premier mai, c'est que le bâtiment s'est dégradé depuis 1904, il est vide. Et deuxième élément, c'est que les sœurs commencent à douter de pouvoir refonder une école dans cet environnement-là, trop isolé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, elles vont tenter des démarches auprès des évêques des Landes. Il y a 2 évêques successifs, Monseigneur Froment et Monseigneur de Cormont. Et curieusement, ces tentatives vont échouer. Elles ont pourtant un petit établissement scolaire sur Mont-de-Marsan, mais qui est trop petit. Donc on leur dit non, ça ne pourra pas marcher sur Mont-de-Marsan. Elles vont relancer des demandes pour revenir, puisque c'est un CV, on fait un petit peu l'impasse dessus. Elles vont tenter de repartir sur Dax, et Monseigneur de Cormont refuse. Il a en tête une autre congrégation religieuse, donc en fait c'est congrégation contre congrégation. Et les sœurs veulent même racheter, pour celles parmi vous qui connaissent le site de Tartas, elles veulent racheter Tartas, Monseigneur de Cormont s'y oppose. On a en fait, entre Monseigneur de Cormont et Monseigneur Gieur, une querelle d'ego qui va être extrêmement violente, tellement violente d'ailleurs que Monseigneur Gieur finira par menacer Monseigneur de Cormont de le mettre au tribunal. Ça aurait été assez cocasse de voir les élèves mis au tribunal l'un par l'autre. Bien, alors, pourquoi Monseigneur Gieur n'a-t-il pas pensé à Bayonne ? Tout simplement parce que, landais dans l'âme, il voulait rendre aux Landes ce qui était sorti des Landes. D'où vient donc l'idée de venir sur Bayonne ? Alors l'idée, elle vient en septembre 1919, et selon ce que les sœurs racontent, c'est la suggestion du curé de la cathédrale, le chanoine Jean Chuteau, qui est archiprêtre à la cathédrale de Bayonne, qui trouve qu'il y a un manque pour l'éducation des filles, qui souhaite qu'une école, qu'un pensionnat s'installe. Pour les Bayonnais à l'époque, il faut se replacer un petit peu dans ce contexte, il y avait 2 pensionnats pour les filles qui étaient, marquants, qui avaient un renom certain, et où on a envoyé les filles. D'abord, il y avait Notre-Dame du Refuge, fondée par le père Sestac, ancien prêtre de la cathédrale de Bayonne. Le tramway permettait d'y aller, donc c'était accessible, il n'y avait pas de souci. Le refuge faisait ça très bien. Deuxième établissement, c'était les Filles de la Croix à Ustaritz. Alors, les Filles de la Croix qui avaient été protégées par Napoléon III, donc elles aussi, donc qui ont pignon sur rue, mais elles accueillent plutôt les élèves venant de la vallée de la Nive, venant du Pays Basque. Et donc, sur Bayonne, il n'y a rien en propre. Et l'archiprêtre donc de la cathédrale suggère à Monseigneur Jure de les faire venir là. Alors, il précise même que c'est parce que lui, en tant qu'archiprêtre, il connaissait la réputation des sœurs et leur qualité éducative par le fait que deux de ses nièces avaient été élèves. Donc la réputation, le bouche à oreille, tout ça fait que, mais pourquoi pas les faire venir à Bayonne. Alors Monseigneur Gère, il démarre au quart de tour. C'est extraordinaire, cet évêque-là, un sens de la décision qui est ultra rapide. Il informe les sœurs qui veulent les voir revenir sur Bayonne. La petite histoire dit qu'il leur a proposé deux villas, soit Villa Pia, soit l'Argentée. Et les sœurs finiront par choisir l'Argentée pour une raison très pratique, c'est plus près de la ville que Villa Pia. N'oubliez pas que la ville, en 1920, s'arrête aux remparts et qu'à l'extérieur des remparts, sur cet axe-là, il y a le cimetière, l'hôpital et le lycée des garçons. On a mis tout ce monde à l'extérieur. Et donc, voilà. Alors, la description de l'Argentée à l'époque est intéressante. C'est un gros domaine qui est à l'extérieur de la ville, qui appartient à un docteur, le docteur Léon Moinac, lequel docteur est un personnage important dans le milieu médical de l'époque, et il commence à être un peu âgé, et cette maison, qui manifestement était une maison où il n'habitait pas, avait été utilisée pendant la guerre de 14 pour accueillir l'état-major américain, qui avait laissé d'ailleurs les locaux dans un état plutôt triste, on va dire ça comme ça. Monseigneur Gieur pousse le docteur Moinac à louer la villa aux sœurs, ce qu'il fait dans un premier temps, et vous verrez que ça va s'enclencher très très vite, puisque le 12 octobre la rentrée a lieu, et le 29 octobre l'achat définitif est passé devant notaire, c'est une étude dont les succès servissent toujours, l'étude d'Edchard Cléris, pour un montant de 120 000 francs. Donc vous voyez que c'est allé extrêmement vite. Et les sœurs disent, voilà ce qu'elles disent, pour elles, c'est le plus beau local de la ville, 4 hectares de parc, en fait c'est 3 hectares et demi, jardin et cour, des allées magnifiques. C'est la grande maison bourgeoise, à côté de ce qu'elles ont vécu à Saarhaus. C'est vraiment le sentiment d'avoir enfin quelque chose à leur mesure. Alors, la gravure que vous avez là, c'est l'état de la villa quand elles arrivent. C'est une villa d'un grand bourgeois. Il y a orangerie, il y a écurie, il y a chenil. Et il y a surtout un parc avec de magnifiques arbres qui sont restés très très longtemps en place. Mais c'était plutôt des chênes que des tilleuls, je tiens à le préciser. La légende, je dis la légende ou la réalité, je n'ai jamais trouvé confirmation de ce fait, veut que le nom de l'Argentée soit lié au tilleul argenté. Bon, on va faire comme si c'était vrai, mais je n'en ai trouvé aucune confirmation nulle part. Mais bon, l'histoire est belle, gardons-la. Pourquoi cet espace retiré de la ville? Tout simplement parce qu'un pensionnat, à la fin du XIXe siècle, c'était un lieu d'éducation. Et pour éduquer, il faut d'abord sortir du milieu d'origine, il faut isoler l'enfant, le prendre dans ce qu'il est, lui éviter toutes les contraintes, toutes les pressions extérieures. J'ai parlé du jardin, pour les sœurs c'est extrêmement important, puisqu'une part de l'approvisionnement de la communauté et de l'internat d'ailleurs viendra d'un jardin qui sera d'ailleurs très richement entretenu pendant des années, pratiquement jusqu'aux années 60. Voilà. Alentour, il n'y a pas grand-chose. L'acte de vente précise qu'au sud, ce sont des terrains militaires. Donc c'est vide. Les sœurs sont à l'abri. Les murs qui vont si longtemps cacher l'Argentée à la population de Bayonne font qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et c'est comme ça. La discrétion est, on va dire, le maître mot de cette installation. Quand elles arrivent, cette villa qui est magnifique. Alors, je n'ai pas mis le reste du dessin, tout simplement parce que c'est le premier projet de construction fait par l'architecte. L'architecte est celui du grand séminaire, M. Saint-Vannes. Sauf que le projet qu'il fait au départ est trop important pour la finance des sœurs, et les sœurs vont réduire considérablement le projet pour avoir un bâtiment plus à portée de leur bourse. Comment l'argenté a-t-il été acheté? Avec le produit de la vente, même s'il n'est pas très élevé, surtout avec un apport conséquent de familles landaises très riches qui vont faire des dons. N'oubliez pas non plus que les sœurs qui rentrent, les mères qui rentrent, arrivent avec une dot comme une mariée, et cette dot est souvent très importante pour alimenter les ressources financières de cette communauté. Les comptes vont être ensuite abondés par des prêts de l'évêché et des prêts d'autres congrégations. C'est extraordinaire quand on regarde les comptes de l'argenté, c'est des comptes d'épicier ou d'apothicaire. Telle congrégation m'a prêté ceci, on a rendu à telle congrégation cela, et puis Saint-Joseph nous a donné des sous, merci Saint-Joseph, et puis etc. Donc en fait, ça veut dire que les donateurs, elles doivent faire du sponsoring sans arrêt pour avoir de quoi assurer leur développement. Parce que les constructions de l'argenté vont s'étaler entre 1920 et 1940. Les constructions, elles sont, on va dire, classiques pour un pensionnat, internat, chapelle. La villa que vous voyez là est transformée très vite pour accueillir la communauté des sœurs, et les bâtiments des classes qui s'installent sont souvent modestes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas en matériaux ou en qualité de décoration grand-chose. On va au plus pressé, on va au plus efficace avec l'argent dont on dispose. Mais je voudrais retenir quand même dans cette implantation des éléments qui me paraissent très significatifs et très symboliques. Quand vous entrez dans l'argenté, entre 1920 et 1940, le premier bâtiment sur lequel vous tombez, sur lequel les élèves et les familles tombent, c'est un laboratoire de physique. Nous sommes pour une école de filles, je précise. Alors tous vos schémas poncifs qui consistent à dire que les sœurs fabriquaient des braves ménagères, vous pouvez les ranger parce que ce n'est pas comme ça chez les Ursulines. Premier bâtiment qu'on rencontre, c'est un laboratoire de physique. Et même les premières photos montrent des microscopes. Nous sommes en plein dans le souci de développer un esprit critique, rationnel, scientifique. Premier contre-pied à ce que l'on peut véhiculer sur l'éducation religieuse. Deuxième élément que l'on voit quand on continue dans le parc, c'est un fronton et un terrain de tennis. Deuxième préoccupation majeure pour les Ursulines, le corps. Une éducation passe aussi par le corps. Fronton emblématique, puisque 100 ans après, il est toujours là et il est toujours largement utilisé. Le tennis a disparu, mais il faut dire que pour 2 ou 4 joueurs, c'est occupé un peu trop d'espace, vu la pression des élèves. Le troisième bâtiment, c'est un oratoire qui est passé tout au fond du parc. Et cet oratoire, lui aussi, est très très symbolique. Il abrite d'abord une réplique de la Vierge de Buglose. Donc c'est vraiment le rappel de leur spiritualité ancrée dans l'environnement landais. Et il est dédié à la Vierge, et cette Vierge, elle va être vénérée à plusieurs titres, puisqu'elle est considérée comme étant la protectrice de l'établissement, et on verra très vite qu'elles auront besoin de protection, ces sœurs, au cours des années qui vont suivre. Quant à la villa, la physionomie actuelle a changé, puisqu'en 39-40, la belle toiture que vous voyez là, est attaqué par les termites, on décide de l'enlever, de le monter d'un étage, et cette villa accueillera quand même jusqu'à 60-70 religieuses. Donc c'est vraiment un corps de bâtiment qui change de destination et qui devient spécifiquement lié à l'accueil des sœurs. Si on regarde attentivement l'organisation de ce type d'établissement, la direction, elle est confiée à une sœur. Alors, cette sœur que vous avez là, elle s'appelle sœur Marie Stanislas, c'est la première directrice de l'argenté. C'est une demoiselle Tapi, et peut-être que pour certains baïonnés, le nom de Tapi vous est familier. Et donc, voilà, la première directrice. Attention, la directrice n'est pas la supérieure ou la mère prieure. Il y a une distinction entre les deux. Alors, elle accepte, obéissance oblige, avec un regret, et je vais vous dire quel est son regret, c'est que pour prendre cette fonction, il faut enlever son habit religieux et se mettre en habit civil. Et nous avons, dans les archives de l'Argentée, plusieurs photos de religieuses en habit civil, puisque pour éviter de donner l'impression que les congrégations repartent à l'assaut, les diatribes autour des signes ostentatoires ne datent pas d'aujourd'hui, hein, c'est une vieille, vieille histoire. Donc elles vont se mettre en costume civil, et cette sœur Mère Marie Stanislas l'accepte difficilement, mais s'y pliera. Après, donc, quand l'établissement, en 1940, on va dire que l'établissement arrive à un certain point d'équilibre au niveau de son immobilier. Tout est neuf, tout est en place. L'internat a beaucoup prospéré. L'internat arrivera à un maximum de 150 internes sur un établissement qui, pendant la guerre, fait 320 élèves. Vous voyez que c'est quand même une grosse partie de l'effectif. Parce que nous arrivons à la guerre. Alors, à ce point de mon exposé, je vais vous dire simplement que ce que je vais vous dire ne sera qu'un petit aperçu, parce que nous avons eu la chance de trouver dans les archives un document rédigé par la directrice de l'époque, qui s'appelle Mère Marie de Jésus. Ce document s'appelle « Au jour le jour », où elle a consigné depuis juin 40 jusqu'en août 44 tous les événements marquants que l'établissement va connaître. Et je vous assure que quand on le lit, on est un petit peu ahuri. Et pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes là dans un établissement de filles et de femmes. Il y a 70 femmes à peu près, religieuses, et 326 filles, puisque l'établissement n'est pas mixte. Imaginez près de 400 femmes, filles, face à des troupes allemandes qui vont se succéder sur le site pendant 4 ans. Alors vous imaginez que ça va donner lieu à un certain nombre d'éléments. Alors pourquoi les Allemands s'installent-ils à l'Argentée ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut accueillir les troupes d'occupation, on les accueille dans les hôtels, on les accueille un peu partout. Les établissements scolaires sont logiquement réquisitionnés, tout simplement parce qu'ils ont souvent de l'internat. Sauf que, et elle le précise, elle le martèle, il avait été dit que les Allemands ne réquisitionneraient pas les établissements de filles. Et donc, allez chez les garçons si vous voulez, mais nous, laissez-nous tranquilles. Autre élément pour lequel on s'installe à l'Argentée, les Allemands vont s'installer à l'Argentée. Nous sommes en face du lycée des garçons, qui est réquisitionné. Nous sommes juste à l'entrée de l'axe de circulation qui amène vers le Pays Basque intérieur. L'Argentée dispose d'un parc qui peut servir de lieu de stockage pour les véhicules, c'est un certain nombre de munitions. Et nous sommes aussi avec un bâtiment qui est neuf, donc il y a des cuisines, important les cuisines, parce que même si la roulante va accompagner les troupes, ça ne suffira pas toujours, et l'internat. Alors d'ailleurs, les Allemands ne sont pas très très contents quand ils arrivent, parce qu'ils espéraient trouver des chambres avec une qualité de confort supérieure à ce qu'ils vont trouver. Et non, ils vont demander à pouvoir monter le chauffage, sauf que dans la villa que vous avez vue tout à l'heure, que vous avez là, il n'y a pas de chauffage du tout. Donc c'est pour vous donner une idée du côté spartiate de la vie des religieuses. Donc, les troupes arrivent, elles arrivent dès... Alors d'abord, on peut faire juste une incise, avant que les troupes allemandes n'arrivent, ce sont les débris de l'armée polonaise qui arrivent sur l'Argentée, les débris de l'armée française, tout le monde se précipite pour essayer d'embarquer soit à Saint-Jean-de-Luz, soit d'essayer de passer la frontière vers Hendaye. Et donc c'est une véritable panique indescriptible qui nous est donnée par ce témoignage de la religieuse. Et l'Argentée qui était fermée, qui était discret, qui ne voulait pas se faire voir du tout par l'extérieur, est contactée par le lycée d'en face pour avoir du soutien. Et alors, c'est la première fois, elles sont un peu ahuries d'ailleurs de voir que tout d'un coup, elles existent aux yeux de la société, et donc elles vont volontiers d'ailleurs donner ce coup de main. Alors les troupes arrivent, et ces troupes, 4 ans de cohabitation, je ne vais pas les décrire parce que c'est trop long. Je vais prendre simplement 3 exemples. 3 exemples qui sont significatifs de l'atmosphère et du climat. Le premier exemple va concerner une histoire assez curieuse. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien le lire. Vous avez là un billet dans lequel il y a marqué, je ne peux pas le lire d'ici, pardon, à bas la croix gammée, vive Pétain, vous admirerez l'orthographe, Vive la France. Et vous voyez qu'il y a écrit une Française et un drapeau dont vous pouvez vous étonner, si cet élève est si patriote, de la manière dont il a été fait. Petit problème, c'est que ce billet est un billet d'une série de 4 ou 5 que les Allemands vont trouver, soit dans leur véhicule, soit dans les couloirs des classes. Je vous assure qu'ils n'ont pas tellement plaisanté. Mais nous sommes en 1941, les Allemands essaient de donner le change avec la collaboration, et ça va donner des contacts assez rugueux. On va voir ce que ça va donner, parce qu'on va lire juste un tout petit extrait de cette affaire, et je vous dirai comment elle s'est terminée.
L'insistance des religieuses à défendre leurs élèves exaspère le capitaine Thomas. Furieux, il menace les sœurs de prison pour avoir osé accuser un soldat allemand. Puis il reprend son refrain. Ce billet manifeste l'esprit de l'argenté. Les religieuses en sont responsables. Je n'emprisonnerai pas la supérieure, elle est trop vieille. Mais si le fait se reproduit, les religieuses professeurs paieront en prison les fautes de leurs élèves. Et pour mieux intimider, Thomas exige le nom des religieuses dont les classes donnent sur le couloir incriminé. Et il enchaîne « Moi aussi j'ai été instituteur. À votre place, sur la présentation du billet, je saurai bien reconnaître la coupable. »
Alors, il faut savoir que cette affaire ne reste pas, là pour le coup, dans les murs de l'Argenté. Elle va faire beaucoup de bruit. L'inspecteur d'académie, qui à l'époque est sur les Landes, pour le coup, parce que le département est coupé entre la zone libre et la zone occupée, va venir. Ça va être vraiment un tintamarre pas possible, qui va finalement être réglé par l'intermédiaire d'un parent d'élève. Ce parent d'élève, c'est un général qui a été ministre de l'air avec Pétain dans un gouvernement dans les années 30. C'est le général Denain, qui avait perdu deux de ses fils d'ailleurs en mission contre les Allemands. Donc les Allemands vont respecter et ils ne vont pas aller trop loin. Je ne sais pas comment cette affaire se serait réglée en 1943, quand les Allemands commençaient à être sur la défensive. Donc l'affaire va se résoudre. Les sœurs vont argumenter en disant « Attendez, ce n'est pas une Française qui a pu dessiner un drapeau comme ça. Vous pouvez essayer de nous faire dire quoi que ce soit. » Donc elles vont essayer de dire « Ça ne tient pas debout votre argumentaire. » Et les frictions rapportées par la directrice Mère Marie Jésus sont assez étonnantes. Donc c'est vraiment un bras de fer entre ce fameux capitaine Thomas qu'elles ne peuvent pas voir en peinture, ça c'est vraiment extraordinaire, et la supérieure qui est trop vieille, effectivement, elle va mourir quelque temps après, et vraiment, cette histoire est difficile. À côté de cette affaire-là qui, on va dire, occupe la hiérarchie, que se passe-t-il dans les cuisines? Parce que la cohabitation des troupes, elle se fait au quotidien, alors les religieuses les plus humbles, celles qui sont à la cuisine, vont être en contact direct avec les cuisiniers, et souvent cette interface-là va donner lieu à des choses assez curieuses ou assez amusantes, comme vous voulez. Je vous laisse cette petite anecdote.
À son arrivée à la cuisine, Karl, un cuisinier, s'est avisé de saluer nos sœurs d'un emphatique « Vive Hitler et Mussolini !»« Laissez-les tranquilles, rétorque sœur Blandine. Ici on dit « Loué soit Jésus-Christ !» Répétez. Docile, le cuisinier s'est exécuté. Par la suite, lui et son camarade utilisaient cette salutation pour se faire pardonner quelques maladresses.
Je dois dire que les anecdotes sur les trafics, entre guillemets, des sœurs et des Allemands autour de la cuisine, ça vaut vraiment la lecture. Donc quand le texte sortira, si vous intéresse, vous aurez vraiment de quoi vous occuper. Mais les sœurs vivent aussi au rythme des combats, d'une certaine façon. Elles racontent qu'elles sont réveillées un lundi de Pâques par une explosion épouvantable. En fait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire locale, vous vous souvenez peut-être de l'opération Myrmidon, c'est-à-dire une tentative de tester les batteries françaises d'un sous-marin anglais, et qui a fait un tintamarre pas possible. Personne n'a su réellement ce qui s'était passé, et c'est bien après la guerre qu'on a connu les détails de cette opération Myrmidon. Donc c'est raconté fidèlement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a été réveillé par. Beaucoup plus tragique, et là aussi ce tragique qui des combats qui est extérieur a priori et qui les concerne, c'est le bombardement du 27 mars 1944, bombardement qui vise Parme, mais les avions américains ont comment dirais-je, un bombardement qui est beaucoup plus large, comme on va le voir dans ce dernier extrait.
Cet après-midi, le temps était splendide. Du bleu et du soleil plein le ciel. Vers 14 heures, la sirène a donné l'alerte et tout aussitôt nous avons compté 34 quadrimoteurs du type Liberator. Ils semblaient des oiseaux d'argent piqués haut dans l'azur. Et nous nous serions attardés à les admirer sans quelque sinistre grondement et la réplique de la DCA. Un obus de 3,7 mm a tout aussitôt pris en enfilade l'avant-toit de l'archer, frôlant un ouvrier au travail, avant de se ficher dans le sol sans exploser. Le bruit des bombes n'a pas tardé à s'intensifier. Effrayés par ce fracas et la trépidation des cloisons, les petites élèves se sont mises à larmoyer. « Ma mère, si nous les amusions à proposer une grande ?»« Vous avez raison. Descendons vite au sous-sol et faisons une ronde. » Les refrains insouciants de nos élèves amortissaient pour nous le vacarme des détonations et calmaient les nerfs des petites. Mais la mort désolait les alentours. Maignon, Bassussari, Parme, Anglette et surtout Biarritz vivaient des minutes sinistres. Les blessés sont nombreux, les morts aussi, d'autant plus que les réserves de sang ne suffisent pas aux nécessaires transfusions. Deux de nos anciennes élèves sont au nombre des victimes, Françoise Ribeton et Françoise Prévost, 18 et 20 ans. Insouciantes et heureuses, elles étudiaient en se réchauffant au soleil sur le sable de Biarritz.
Donc voilà, tout l'ouvrage est sur ce temps, en alternant les tensions, en alternant aussi la vie quotidienne, les difficultés d'approvisionnement. Alors, quelle est l'attitude des sœurs pendant la guerre ? Alors, les sœurs, il faut le savoir, sont scrupuleusement légalistes. L'État les a mis dehors, l'État les accepte. L'État, c'est une entité que l'on respecte parce que, ma foi, on n'a pas eu le moyen de faire autrement. Bon, il est évident que l'adhésion au régime de Vichy ne fait pas de doute, tout simplement parce qu'une des premières mesures prises par le régime de Vichy va être le décret permettant aux congrégations enseignantes de revenir en place. Donc, c'est sûr que là, il y a une certaine reconnaissance. Cette donnée, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'elles vont batailler, et c'est vraiment le cas, elles vont s'acharner à essayer de faire lever la réquisition. Alors elles sont en contact avec la municipalité de Bayonne, dont elles se méfient, ce sont des radicaux socialistes, et elles ne savent pas trop ce qu'elles peuvent compter, elles ont des mots qui sont quand même assez méfiants. Mais elles vont tenter des démarches, toujours par l'intermédiaire du général Denain et d'un amiral, dont la fille est élève à l'Argentée, auprès de l'administration de Vichy. Et puis elle tape haut, elle tape directement auprès de M. Debrinon, qui est ministre de la Collaboration, qui sera exécuté à la fin de la guerre. Elle tape directement auprès de l'amiral Darlan, qui est Premier ministre, avant l'arrivée de Pierre Laval, et du maréchal Pétain lui-même. Donc, vous voyez, elles vont déployer tout leur trésor de relations pour essayer de faire lever cette réquisition qui, pour elles, risque d'entraîner tout simplement la fermeture de leur école. Mais peine perdue, ça ne marche pas du tout. Par rapport à la ville, au départ, elles sont méfiantes, je l'ai dit, et progressivement, parce que la ville de Bayonne, bon, la municipalité à ce moment-là va être nommée par Vichy, c'est plutôt la même couleur politique, mais la ville de Bayonne va les contacter pour prendre en charge des enfants, pour leur fournir les repas, et donc elles vont jouer un rôle social, et petit à petit, du coup, elles s'insèrent de cette manière-là dans le tissu bayonnais, un peu à leur dépend quand même, il faut le savoir. Deuxième élément, elles vont progressivement évoluer pendant la guerre, elles sont finalement très patriotes. En ce sens que, pour elles, être française, c'est une valeur qu'elles vont largement revendiquer. Et elles vont largement le revendiquer avec l'appui de l'évêque de Bayonne de l'époque, Mgr Van Stenberg, qui n'est pas du tout en odeur de sainteté avec les Allemands, et qui va les pousser à se méfier des Allemands, et va leur donner des conseils, en particulier sur la manière dont elles doivent mettre les filles à l'écart de la soldatesque, parce que bien, vous doutez bien que ce n'est pas très, très évident. Et donc les sœurs vont, ce patriotisme, elles vont le manifester assez régulièrement. Ce qui n'empêche qu'il faut vivre avec ces Allemands et que la collaboration avec eux, après les tensions, va parfois prendre aussi des allures plus humaines. En particulier avec les officiers catholiques qui viennent assister aux mêmes célébrations. Donc il y a une espèce d'unité, on va dire, plus humaine et plus religieuse qui va parfois se nouer avec quelques personnes. À savoir, il y a des Allemands qui reviendront à l'Argentée bien après la guerre pour voir prendre des nouvelles des sœurs. Donc on n'est là pas du tout dans une posture politique, on est dans une posture de relation humaine. Quand la libération arrive, il y a une mention très très légère dans le récit. On fait allusion à des familles de résistants qui visiblement habitaient dans le quartier et que les sœurs ont dû aider. Voilà, donc on a toute la palette, un peu, on va dire, tout ce que les Français vont vivre, hein, d'une certaine façon. On est pétainiste et puis progressivement on va rentrer dans une méfiance vis-à-vis de Vichy et puis on va soutenir la résistance et le soulagement qu'elles expriment à la fin de la guerre est quand même tout à fait intéressant à lire. Et elle raconte le départ des Allemands. Ça vaut aussi, dans l'histoire de Bayonne, d'être lu pour voir le climat qui entoure la ville. Mais si 326 élèves ont cohabité avec les Allemands et la communauté, ça n'a pas été sans mal. Les Allemands ont occupé tout l'internat, ont occupé une partie des classes, donc les élèves ont dû se concentrer avec les sœurs sur cette villa qui, du coup, éclate comme un œuf. Les cours ont lieu dans les couloirs, on met des séparations artificielles entre les classes, dans la serre. Donc c'est une situation qui est très compliquée. Mais le récit montre que tout se passe bien et les Allemands disent « Mais comment se fait-il que vos élèves soient heureuses ?» Alors, bien sûr, le récit a été recomposé un petit peu après la guerre. Il y a certainement une autre volonté de la part de la rédactrice pour dire « Attendez, on est capable de surmonter une épreuve. » Mais il est vrai que les photos que nous avons de l'époque montrent que la vie se poursuit normalement. Donc, Mère Marie de Jésus qui est là, c'est elle. Alors, elle est sous-directrice, c'est elle qui est à la manœuvre pratiquement pendant toute la guerre. Pendant cette guerre, il y a un événement qui intéresse la communauté, mais qui va intéresser aussi l'école. C'est la nomination d'une nouvelle prieure. Et cette nouvelle prieure s'appelle Mère Marie Gertrude. Cette Mère Marie Gertrude, pour les anciens élèves qui sont présentes, ça évoque certainement un visage, une attitude, une posture, et ça évoque quelqu'un qui impressionnait beaucoup. Bon, alors on va essayer. Elle n'est pas directrice, elle ne nous concerne pas directement, mais nous allons la retrouver sur notre chemin.
L'Argentée, 100 ans d'histoire à Bayonne, première partie. Tel est le thème de la conférence que vous venez de suivre. Elle était donnée par Dominique Iribarin, professeur d'histoire retraité et ancien directeur de l'établissement. Il était enregistré le 18 septembre 2020 au Musée basque et de l'histoire de Bayonne.